Vous écoutez France Musique.
Vous êtes sur France Musique. Il est minuit. Es ist Mitternacht. À l'improviste. Anne Montaron.
L'homme à la contrebasse de notre générique, c'est Claude Chamichian. Et il était grand temps de lui consacrer un portrait, ne serait-ce que pour prolonger la résonance de ses beaux sons à la couleur bien spécifique. La contrebasse est sans doute de tous les instruments celui qui sait le mieux, grâce à la générosité de sa caisse de résonance et son grand corps tout en rondeur, être la caisse de résonance du monde. Le monde vient s'y cogner, ses heurts et ses bonheurs, les luttes des hommes et les grandes marches aussi. Dans la contrebasse et dans la musique de Claude Chamichian, il y a tout cela à la fois. La plus profonde intimité de l'être se mêle au jeu collectif et aux idéaux de partage. Il y a 20 ans, Claude Chamichian a rassemblé autour de lui un orchestre baptisé Lusatzak, splendide mot arménien pour désigner l'émergence de la lumière. Cet orchestre a pris au fil du temps plusieurs visages et s'est amusé à tisser l'écrit et l'improviser. En avril dernier, Claude Chamichian a réuni autour de lui à Paris 9 musiciens, dont la chanteuse Géraldine Keller. L'acoustique Lusatzak est née ce jour-là et a révélé ses nouvelles couleurs et son profond lyrisme avec des échappées vers une grande liberté d'expression vocale. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'une voix apparaît dans le Lusatzak.
L'ouverture sur la voix avait commencé avec un Lusatzak un petit peu plus réduit, on était 8. Le projet qui s'appelait Human Songs avec Médéric Collignon, où j'avais sollicité Médéric précisément pour ça, pour ses qualités de trompettiste, enfin de cornet de poche, de joueur de cornet de poche, c'est important, je sais qu'il y tient, et de vocaliste. Mais jusque-là, la voix était utilisée de façon instrumentale. Avec Géraldine, j'ai pu explorer effectivement une nouvelle dimension, qui est la dimension du livret, la dimension de la parole, du sens, de ce qu'on veut défendre par rapport à ça. C'est tout un cheminement artistique qui m'y a amené. Et la dernière chose avec laquelle ça a été extraordinaire de travailler avec Géraldine, c'est que l'écriture n'a pas été une mise en musique de poèmes ou de textes. D'ailleurs, le livret vient d'extraits d'œuvres d'Agota Christophe, soit spécialement écrit pour l'occasion par Christine Roilet. Et la musique a été écrite en préambule. Et tout le travail avec Christine Roilet, qui a adapté les textes d'Agota Christophe et puis qui en a écrit sur mesure, et Géraldine Keller, donc à trois, a été d'adapter la parole au chemin mélodique et harmonique que j'avais prévu pour elle. C'est un exercice assez intéressant, et Géraldine, avec toute sa culture, ses capacités et puis son talent, puisque évidemment elle est sollicitée non seulement comme interprète mais comme compositrice instantanée, c'est-à-dire comme improvisatrice. Donc pour moi, par rapport aux chanteuses qui existent actuellement dans notre univers artistique, elle s'est d'emblée imposée, et je crois qu'on est tous très très contents qu'elle ait accepté l'aventure.
Je voudrais qu'on parle de ton rapport à la voix, parce que il est intimement lié, je pense, à ton rapport à la contrebasse et aux cordes, dans la mesure où, quand tu joues de la contrebasse, et notamment la contrebasse solo, il y a un chant qui se déploie de manière évidente.
Bon, c'est toujours un petit peu compliqué forcément de parler de son propre parcours, mais tout ce que je fais, tout ce que j'essaye d'écrire, là je parle évidemment que de mes musiques, les musiques personnelles, mais même dans les projets des autres, c'est vrai que le temps passant, j'ai eu la chance d'explorer beaucoup d'univers, on va dire stylistiques différents, mais c'est comme s'il y avait un lieu commun, que ce soit le matériau, la matière, l'harmonie, la mélodie, le rythme, il y a un chant. Enfin, en tout cas, bon, ça n'engage que moi, c'est en aucun cas une vérité. Mais si j'explore un rythme, j'essaie de le faire chanter. Si j'explore une mélodie, forcément pour moi, elle sera intéressante si elle évoque quelque chose qui a à voir avec le chant. C'est-à-dire, il y a une dramaturgie. Il y a quelque chose. Une mélodie peut être très belle, mais elle n'est pas forcément chantante. À partir du moment où il y a quelque chose qui se développe, comme une histoire que quelqu'un peut, n'importe qui, puisse reprendre à son compte, s'inventer sa propre dramaturgie à partir de celle qu'on pourrait proposer. À ce moment-là, une musique déroule un chemin qui, pour moi, a à voir avec ce que le chant amène. Le chant, c'est quand même... C'est pas pour rien que 80% de la musique mondiale est une musique avec chanteur, avec un élément vocal. Le chant, il n'y a qu'à voir... on a tous été bercés par des chansons dans nos enfances. Je fais des choses différentes de ce qu'on pourrait appeler la chanson de variété. Mais la chanson est ce fantastique théâtre de 3 ou 4 minutes où chacun peut être bouleversé par quelque chose qui tout d'un coup peut devenir extraordinairement proche. Et cette faculté d'avoir une dramaturgie très profonde et en même temps très proche, ben ça se révèle au fur et à mesure, et je crois que ça a toujours été en moi, et c'est pas la peine de lutter contre ce qu'on est, donc voilà.
Thank you.
Il n'y a pas de voix dans Another Childhood, mais il y a beaucoup de chants.
Il y a beaucoup de chants. Il y a beaucoup de chants, ça c'est sûr. C'est l'instrument, c'est en plus, ça ne s'appelle pas Another Childhood pour rien. C'est un écho au premier solo qui s'appelait Jeux d'enfant. Et on va dire ce thème un petit peu au-dessus de nous qui évoque l'enfance. Est aussi en rapport pour moi avec ce que je pense du chant, parce que je crois que le chant, c'est pas nous qui l'inventons. On est avec le talent qu'on a des révélateurs de quelque chose qui existe bien avant nous, qui existe en même temps que nous et qui existera bien après. On est révélateurs de ces choses-là qui tout d'un coup touchent, interpellent, questionnent et font que les gens, à mon avis, ne pourront jamais se passer de musique ou en tout cas de chant. C'est quelque chose qui est tout à fait ancestral. Ça serait vraiment quelque chose de fantastique si tout un chacun faisait chanter ses enfants. Après tout, ça a toujours existé. La fameuse mélodie italienne, pourquoi elle est si connue? C'est parce que n'importe où en Italie, les mamans, et il n'y avait pas que les italiennes, mais c'est vrai que ça a eu une ampleur assez phénoménale dans ce pays. Les berceuses, enfin de tout temps jusqu'au XXe siècle, et surtout jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est très précisément repéré. Les gens avaient un rapport à la voix, au chant, parce qu'il y avait les berceuses pour endormir les enfants, parce qu'à l'époque où les moyens de sonorisation et de diffusion sonore n'étaient pas aussi développés, on avait beaucoup plus d'artistes de bal, on avait beaucoup plus d'occasions d'avoir un rapport direct à la musique, et le chant était quelque chose qui servait jusque dans le travail. Le chant des labours, le chant des moissons, c'était pas forcément pour se faire plaisir. Il y a qu'à voir encore dans les pays en Afrique, dans les pays où l'agriculture est encore très traditionnelle. Le chant, c'est quelque chose qui rythme les respirations et qui aide à travailler. Il y a toutes sortes de rapports à ça, à cette dimension vocale qui s'exprime aussi, parce que derrière cette dimension vocale, il y a toute la respiration. La respiration, la manière dont on aspire l'air et on l'éjecte, c'est fondamental. Un homme qui ne respire pas vivra beaucoup plus mal qu'un homme qui respire bien. Ça fait des millénaires qu'on le sait. Et le chant est une des voix. Thank you.
autre ligne de force en dehors du chant et de la mélodie dans l'univers de Claude Tchamitchian, l'importance de l'improvisation. Le quartet est net, le duo Le Monde est une fenêtre, le quartet Next to You ou encore le trio Amarco, associant la contrebasse de Claude Tchamitchian à l'alto de Guillaume Roy et au violoncelle de Vincent Courtois, font partie des compagnonnages de Claude Tchamitchian où l'improvisation l'emporte entièrement sur l'écriture.
Avec Guillaume et Vincent, il y a eu des fois, où, il y a eu quelques concerts où les gens sont venus nous demander s'ils pouvaient avoir la partition du premier morceau. Parce que tout simplement, on avait sorti quelque chose qui avait à voir presque avec une comptine. Bon, ben, on avait sur place improvisé quelque chose où il y avait une succession de paysages harmoniques et mélodiques qui pouvaient faire penser que c'était écrit. Non, et puis à l'opposé, ça m'est arrivé d'avoir quelques moments avec d'autres formations, quelques moments qui étaient absolument écrits, où les gens disaient « Oh là, la première improvisation était magnifique !» En fin de compte, c'est à partir du moment où on est très à l'aise et où on reprend le matériau utilisé et qu'on se laisse la liberté d'en faire ce qu'on veut et qu'on laisse aux autres la liberté d'en faire ce qu'ils veulent, c'est le point de départ de toute chose. Et c'est à partir de là que, pour moi, les styles passent derrière la musique. La deuxième chose étant que, non seulement on ne s'interdit rien, ça peut aller de l'abstraction au rythme le plus convenu, mais qu'il faut avoir une perception constante sur l'orchestre. Souvent, quand je parle de l'improvisation, j'en parle comme d'une composition instantanée. En fin de compte, l'écrit ou l'improvisé, pour moi, il n'y a aucune différence, sinon dans le temps. C'est-à-dire que la seule chose qui, pour moi, pourrait justifier une différence entre l'écrit et l'improvisé, c'est que pour produire 10 minutes de musique écrite, si je décide, par exemple, de l'écrire totalement, je peux prendre 2 ans pour le peaufiner. Si je décide de l'improviser, seul ou avec d'autres, ben ces 10 minutes de musique dureront 10 minutes, c'est tout. Mais la position et la manière d'être au moment où on la produit, c'est la même. Il faut être compositeur, c'est-à-dire si on pense en soliste, c'est-à-dire quelqu'un qui se mettrait sur le propos au lieu de se mettre dans le propos, quelqu'un qui réfléchirait que par rapport à ce qu'il a envie de jouer, lui, en écoutant, on va dire, moyennement les autres, c'est raté. Pour moi, bon, c'est vrai que c'est une des musiques les plus stimulantes et presque, pas presque, et les plus difficiles à faire.
Pourquoi difficile ?
Pourquoi difficile ? Parce que précisément, c'est sans filet. On n'a pas un rythme, on n'a pas une mélodie pour se rattraper. Et le jour où, heureusement, c'est rarissime, on n'est jamais en panne d'idées tous en même temps. Mais de très rares fois, c'est arrivé. Je me souviens de concerts où il a fallu attendre 1/4 d'heure, 20 minutes avant qu'une idée prenne corps. Et puis là, ben, y a rien. Il n'y a rien. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est très révélateur, parce que ce n'est pas la peine de forcer les choses. C'est la musique qui met le plus en jeu bien autre chose que la musique. Ça met vraiment en jeu l'être humain dans sa totalité, parce que c'est très révélateur. On se met à nu, en gros, c'est ça.
Tu as enseigné à maintes reprises l'improvisation et notamment dans le cadre de la Fondation Royaumont avec Gagik Mouradian. Oui. Alors, ça devait être particulier parce que lui, il a forcément une approche de l'improvisation amenée par sa pratique de la musique arménienne. Comment ça s'est passé ? Comment vous vous y êtes pris pour ces masterclass d'improvisation à quatre mains ?
C'était tout à fait oral. Ça passait que par l'oreille et précisément par la transmission du chant. Des choses où, un petit peu comme en Inde, Gagik jouait une mélodie et puis il la jouait jusqu'à temps qu'elle soit reprise, puis il en jouait une autre et il menait son chemin comme ça. Moi, j'étais beaucoup plus sur l'exploration de différents matériaux. Matériaux abstraits, matériaux sonores, matériaux beaucoup plus repérés par rapport à des hauteurs mélodiques et harmoniques. Et je faisais travailler les stagiaires par rapport à des clivages rythmiques qui sont ceux des musiques que j'explore. Donc il y avait tout de suite, 3 heures par 3 heures, des fenêtres assez précises. Et puis au bout de 2 jours, ben, on a réuni tout le monde et on a commencé d'abord par jouer Gagik et moi. Et là, ils ont eu en face d'eux, donc c'est les chemins qu'ils exploraient depuis 2 jours, in situ, pendant 10 minutes, 1/4 d'heure, et ça a déclenché des tas de petites étincelles, et ça a été fantastique. À partir de là, on a mélangé des choses, puis surtout quand ils ont commencé à comprendre qu'eux-mêmes avaient absolument le droit, je dis bien le droit, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens qui pratiquent l'improvisation sont mises dans des conditions où on ne leur donne pas toujours le droit de tout faire. C'est un petit peu dirigiste, ou alors dans des unités d'enseignement, ça peut aller de l'école au conservatoire, je ne sais quoi, ouais. Où non seulement on ne les sensibilise pas, mais si on les sensibilise, c'est comme s'il y avait une vérité. L'improvisation, ça doit être ça. L'improvisation, ça doit être ça. Les matériaux qu'on utilise doivent être ceux-là et pas ceux-là, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Donc là, en fin de compte, c'est toujours la même chose. Quand on donne la liberté aux gens, si on ne les y prépare pas un minimum, ça va les effrayer. Rares sont ceux qui vont sauter dessus et puis qui vont en faire quelque chose sans que ça pose de problème. Et puis même, je parle dans les deux sens, parce que moi qui ai la chance de pratiquer l'improvisation depuis bien longtemps, je sais à quel point, comme toute musique, c'est un très long chemin. Et c'est même pas qu'on y arriverait ou qu'on n'y arrivera pas, c'est pas en ces termes-là qu'il faut parler. C'est simplement qu'à chaque fois qu'on se trouve dans une situation, il faut arriver à sortir quelque chose qui puisse permettre de se réaliser sans brider les autres. Et toujours avoir la conscience, et ça, dans le stage de Royaumont, ça a été aussi un gros axe de travail. Ensuite, c'était ce que j'appellerais la double écoute, qui était importante. C'est-à-dire savoir faire la synthèse et toujours avoir une oreille sur le collectif en même temps qu'on a une oreille sur soi.
Puisqu'on évoque l'improvisation et Gagik Mouradian, votre rencontre à tous les deux, elle est vraiment passée par l'improvisation, directement.
Directement, parce que Gagik parlait arménien ou russe. Moi, je parle français et anglais. Il n'y avait pas de langue. Je ne le connaissais pas, mais j'avais entendu ce qu'il faisait. J'invitais Gagik à faire un solo sur le label Émouvance. Et au cours des 3 jours où il a enregistré, pendant les pauses, moi évidemment j'avais ma contrebasse pas loin, mais en dehors du studio, on se parlait pas, Gagik m'invite et si on jouait un peu ensemble, et ça nous a tous les deux surpris parce que moi c'est la première fois que j'étais vraiment très concrètement mis en face d'un témoignage absolument vivant et actuel d'une partie quand même qui m'a constitué, à savoir la particule, je suis arménien par mon père et pour X raisons j'ai été élevé dans l'ignorance de cette culture, mais là elle était, enfin en tout cas, un élément de cette culture était là devant moi et discutait avec moi. Et Gagik, lui, il était en face de quelqu'un qui l'interpellait parce que visiblement ça doit être en moi, j'avais des sons qui se sont accordés tout de suite avec lui et en même temps je l'ai joué d'une manière que lui avait beaucoup envie d'explorer depuis longtemps mais qu'il ne trouvait pas autour de lui. Et donc ça a commencé uniquement par le discours musical. On a joué très vite, on a trouvé des amis. À l'époque, j'habitais principalement à Marseille. Il y a une grande communauté arménienne là-bas. Et j'ai trouvé des amis qui nous ont produit, mais comme ça, concert entre amis. Et on s'est rendu compte que non seulement on pouvait tenir 3/4 d'heure, 1 heure, mais qu'il y avait quelque chose. Donc on s'est mis à travailler. À l'époque, Gagik était très présent en France. Puis nous, on était très présents par rapport à ses activités. On s'est rencontrés longtemps, on a travaillé de plus en plus, on a réussi à trouver des concerts. Et au bout de 3 ans, on a enregistré le disque « Le monde est une fenêtre ».
Je voudrais t'entendre parler de ce qu'on appelle l'improvisation libre, puisque en français, on a tendance à coller des étiquettes ou en tout cas inventer des formules pour des choses qui n'existent pas. Donc, improvisation libre, j'imagine ce que tu vas me dire, mais peut-être.
Je pense que tu l'as déjà entendu. Déjà, improvisation libre, pour moi, il suffit de dire improvisation. Parce que c'est une improvisation pas libre, ça serait quoi? Non, c'est parce que, encore une fois, on a voulu mettre une étiquette sur quelque chose. Alors, c'est par exemple free jazz, mais tout ça n'a aucune importance pour moi. Aujourd'hui, je mets un disque de Thelonious Monk et je me demande ce que ça n'a de pas actuel par rapport à aujourd'hui. J'écoute Albert Heller et quand j'entends da 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 do do da, je vois pas où c'est très différent de certaines marches militaires. D'ailleurs, lui-même les a explorées puisque il a été très longtemps en caserne à la caserne Dunois à Orléans et il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Faut pas oublier ça. Ça veut pas dire qu'il faisait de la musique militaire, mais il avait un rapport très rustique à la musique où il utilisait les mêmes. Si on analyse froidement musicalement, on va voir qu'il y a des tas de choses qui ont à voir avec ce style de musique. Non, confondre style et musique, c'est une grave erreur.
Il n'est pas question pour toi, Claude, quand tu improvises, de te débarrasser, de faire tabula rasa et de te débarrasser de la musique, des musiques qui t'ont nourri.
Mais surtout pas. On a mis tellement de temps à les acquérir. Ça serait quand même totalement stupide de s'en débarrasser. Non, je crois que c'est comme une langue. C'est-à-dire que quelqu'un qui va posséder 30 000 mots, à mon avis, va avoir plus de facilité à parler que s'il n'en possède que 300. Mais ce qu'il va dire, à la base, est tout aussi intéressant. C'est simplement que les moyens pour le dire vont lui manquer s'il n'en a que 300 au lieu de 30 000. Ensuite, il y a la grammaire, il y a les conjugaisons, il y a toutes ces choses-là. En musique, c'est tout ça. Il faut écouter, il faut aller voir. Il y a des choses où j'ai changé radicalement, non pas parce que je jouais ou je travaillais l'instrument, mais parce que j'allais voir des gens. Et c'est vrai que l'improvisation totale, je préférerais dire ça, c'est-à-dire que, on va dire, l'écriture instantanée, ça serait plus juste pour moi, est un moyen où on met, justement, non seulement on ne fait pas table rase, mais on met tout ça. Sauf qu'après, c'est son oreille de compositeur qui doit définir dans l'instant quel élément, parce qu'on ne va pas tout jouer en même temps, sinon il n'y a plus de place pour personne. C'est d'ailleurs... Je ne connais pas de compositeur qui ne soit pas de fantastique improvisateur. Ça n'existe pas, tout simple.
Thank you.
On n'a pas évoqué le merveilleux instrument dont joue Gagik Mouradian.
La camancha, bon, ça c'est encore c'est une leçon. C'est une leçon d'humanité plus qu'un instrument pour moi. C'est-à-dire un instrument qui serait jugé absolument et qui a été jugé par les édiles colonialistes à l'époque. Comme on pourrait en dire autant de plein d'instruments marocains, algériens, tunisiens, qui ont été jugés non pas primaires mais primitifs. Mmh. Avec cette merveilleuse morgue des gens de l'époque, qui jugeaient évidemment que la musique occidentale était bien au-dessus des autres, puisqu'elle avait le savoir, marchant allègrement sur tout leur savoir à eux. Et en fin de compte, cet instrument, et si je l'appelle, si pour moi c'est plus humain que musical, c'est parce que c'est une quintessence en fin de compte. Ça vient de très très loin, c'est effectivement rudimentaire, mais au sens le plus noble du terme. Et puis vous apercevez ce bonhomme, c'est un instrument qui doit faire 60-70 cm, posé sur la cuisse, qui se joue avec un archet. La main est sur la mèche directement. Et puis on découvre que la technique, en fin de compte, non seulement elle est comme la technique de la famille des violons, transversale par rapport aux cordes, mais qu'en plus il fait tourner l'instrument sur lui-même. Il y a une technique de main gauche qui est un petit peu à la manière dont les Arabes jouent le violon, qui le jouent sur la cuisse, ou les Indiens. Et tout d'un coup, la main gauche, elle n'a plus un travail uniquement de pincement des cordes, elle a aussi un travail d'orientation de l'instrument qui est, mais il suffit de l'entendre cet instrument, mais fondamental dans le timbre et l'émission de son. Et puis on s'aperçoit que cet instrument descend aussi bas qu'un alto et va aussi haut qu'un violon. Et puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, il a un ambitus incroyable. Et on s'aperçoit que rythmiquement, il arrive à faire des choses incroyables. Que harmoniquement, comme les musiciens baroques le faisaient autrement, il change allègrement d'accord. Un coup, c'est simi-simi, un coup, c'est la-mi-la-mi, un coup, c'est ça lui pose aucun problème. Alors que si moi, qui suis accordé mi, la, ré, sol, je mets tout d'un coup, je sais pas si jamais je décide de m'accorder en quinte, je ne peux plus jouer de mon instrument. Et on s'aperçoit que tous ces gens qui sont jugés primitifs ont un savoir, une science, et en plus, activement et par rapport à la pratique actuelle, une faculté d'adaptation phénoménale. Et là, je me suis dit, voilà, il arrive avec ce que certaines personnes auraient appelé un bout de bois, et si je puis parler un tout petit peu vulgairement, il nous en met plein la vue avec un discours, un chant, un timbre et un rapport à la musique, tout ça dans un esprit d'une modestie qui n'a d'égal que son talent. C'est absolument... Moi, ça m'a transcendé. Enfin, je pense qu'on l'aura compris.
Quand on t'entend parler de cette camancha, on a l'impression que tu en parles de l'intérieur et que c'était comme si tu en jouais tous les jours. Alors, est-ce que tu parles de la même manière ? Tu pourrais parler de la même manière de ton instrument, la contrebasse. Tu le connais tellement, cet instrument.
Oui, enfin, je le connais tellement.
Quels sont les recoins
j'ai un savoir dessus, mais...
Ouais.
Mais je vois à quel point c'est ça qui est très stimulant. Je vois à quel point on peut continuer sans arrêt à découvrir des choses. Parce que voilà, il se trouve que j'ai décidé de tout faire avec le bois et les cordes et rien d'autre. Et quand on voit toutes les trouvailles sonores qu'on arrive à faire avec ça, c'est ni mieux ou moins bien qu'autre chose. J'admire profondément des gens qui ont utilisé des instrumentations électroniques ou même sur des instruments comme la contrebasse, qui ont utilisé des effets électroniques comme Bart Phillips, qui est un des maîtres pour moi de l'utilisation sur cet instrument. Mais je pense aussi à des jeunes comme Bastien Bonny, qui n'est pas le fils de Raymond Bonny pour rien, qui a un très très grand savoir de l'utilisation des effets électroniques par rapport à cet instrument. Et puis il y en a d'autres, hein. La liste est loin d'être courte. Il y a beaucoup de gens qui sont... Bon, voilà, moi j'ai voulu tout faire à partir de ce qu'on va appeler l'acoustique. Et sur cet instrument que je connais bien, parce que techniquement je l'ai exploré, je suis loin d'avoir le meilleur niveau du monde, mais j'ai un bon niveau qui me permet en tout cas de pouvoir explorer et créer un langage. C'est tout ce qui m'intéresse. Et je m'aperçois que ce langage est infini. Après, pour revenir au début de la question, si j'étais né en Arménie, est-ce que je jouerais de la contrebasse? Je crois que c'est un jour Gagik qui m'a dit ça. C'est beaucoup à la rencontre de Gagik et de Bart Phillips, d'ailleurs, dont je parlais, que j'ai changé mon archer, que j'ai switché sur une position à l'allemande plutôt qu'à la française. Et c'est beaucoup quand j'ai travaillé avec Gagik que tout un travail sur le pianissimo, sur le timbre, le frotté, s'est développé chez moi. Parce que voilà, quelque chose dans la manière de jouer la musique très pianissimo, dans la manière de gérer le frottement de l'archer sur la corde, vraiment c'est ça, c'est au-delà des techniques de tir et pousser, de coups d'archer, de tout ce que vous voulez. C'est, y a vraiment un vrai rapport au matériau même de l'instrument qui a totalement changé à partir du moment où j'ai rencontré Gagik, et qui a changé parce que ça n'a pas été une volonté, parce que ça a révélé. Gagik, un jour en m'entendant improviser, me disait « Mais comment tu peux jouer ça ?» Je me souviens d'un des premiers Loussadzak où des amis arméniens, sur un des morceaux, me disaient « Ce que tu viens d'écrire, on dirait de la musique arménienne. » Gagik a été un sacré révélateur pour moi.
De tes pièces de Another Childhood qui évoque justement l'Arménie ou en tout cas tes origines s'appelle Désir d'elle, je crois. Et je me souviens t'avoir entendu dire que l'Arménie, c'était pas seulement des choses riches et légères, c'était aussi un passé sombre, une histoire sombre, en tout cas l'histoire de l'Arménie, de ce pays, de ce peuple. et que justement, si cette pièce s'appelle Désir d'elle, c'est que tu as un désir de légèreté, donc renouer avec ses origines, mais en même temps, pas que dans le caractère sombre de cette histoire.
Oui, c'est un désir d'elle, ça s'écrit D'A-I-L-E-S. Ça en dit déjà pas mal par rapport à ça. Et oui, c'est un pays, j'ai eu la chance d'y aller deux fois, comme beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays dans cet endroit du monde. Il y a un rapport au pathos, il y a un rapport au drame, évident. Bon, ça n'en est pas les Arméniens n'en ont pas le monopole, comme on va dire tout le Moyen-Orient. Mais il faut dire aussi que c'est une région extraordinairement riche historiquement et riche en événements absolument tragiques. Enfin bon, il y en a eu aussi partout, mais c'est vrai que le haut du Tigre et l'Euphrate, pour nous en tout cas occidentaux, judéo-chrétiens, c'est quand même fondamental. D'être là-bas, d'être au pied du Ararat, d'être en plus totalement immergé avec ces gens qui sont d'un accueil absolument fantastique et puis qui évoquent encore une fois, comme tout à l'heure j'en parlais avec la musique, qui évoquent et qui font... C'est même pas qu'ils évoquent, c'est que j'ai ressenti des choses en Arménie que je ne m'attendais même pas à ressortir. Je pouvais même pas l'imaginer. Mmh. Des émotions. J'ai eu des crises de larmes dans des endroits alors que tout allait bien. Tout allait bien. Je me souviens la visite du monastère de Garni où il a fallu que je m'asseye sur un banc et où j'ai pleuré. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, une sorte d'émotion qui submerge parce qu'on est dans un endroit qui n'est pas neutre. Et par rapport à ça, j'avais pas envie justement d'explorer que ce côté-là. Parce que pour quelqu'un comme moi qui suis français, quoi, en gros, il y a quelque chose presque d'indécent et de facile à tomber là-dedans. Parce que vu d'ici, peut-être aussi la mauvaise foi ex-colonialiste où tout ça joue. Donc quand on joue beaucoup là-dessus, on va être très bien accueilli. Et j'ai pas envie. J'ai envie que les gens soient sur un pied d'égalité tout le temps. Et que quelles que soient leurs origines, leurs couleurs, n'importe quoi, je m'en fous. Le discours, lui, soit pris pour ce qu'il est et rien d'autre. Et cette question, bon, elle est très intéressante et elle va être très actuelle, puisque l'an prochain, en 2015, on va célébrer, si je puis dire, le centenaire du génocide arménien, qui est historiquement repéré au 24 avril 1915. Et c'est évident qu'au début, je voulais même pas agir par rapport à ça, faire quoi que ce soit. Et c'est dans la continuité de ce que Désir d'elle peut représenter, justement, essayer de parler au-delà de ce qui est arrivé aux Arméniens, car hélas, les Arméniens n'ont pas le monopole du génocide, et c'est bien, bien désolant pour l'humanité. Au-delà de tout ça, je pense que ce qui me frappe, si je vois ce qui est arrivé aux Juifs, ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique, ce qui est arrivé à toutes sortes de populations, si on lit l'histoire de Gengis Khan, bon, enfin, etc. Ce qui perdure, ce qui arrive à survivre, même quand un peuple a tout mis en œuvre pour annihiler et détruire une civilisation, il y a toujours quelque chose qui survit. Et ce quelque chose est très souvent l'ordre de l'art, du son, de la musique. Et c'est plutôt ça que je prépare un projet pour donc 2015. Et je m'aperçois que ce projet est en lien avec des choses comme Désir d'elle. Voilà, cette espèce de résistance poétique, de dernier refuge qui fait qu'on a quelque chose à dire et que peut-être le chant en est un des vecteurs les plus puissants pour aller le porter aux oreilles de chacun et toucher du coup les esprits et les pensées de chacun.
Thank you.
tu as un lien très fort, pas seulement à ton passé ou au passé d'une civilisation qui t'est proche ou d'un peuple qui t'est proche, tu as un lien très fort d'une manière générale à la société dont tu fais partie. Donc je pense que pour toi, musique et politique, musique et société, en tout cas, c'est intimement lié.
Absolument. C'est fondamental et puis c'est vrai, on pourra toujours me rétorquer que c'est facile pour moi de prendre la parole sur scène puisque si je suis sur scène en face d'un public, le public normalement il est venu pour m'écouter, c'est donc un a priori positif. Mais au-delà de tout ça, j'essaie de m'impliquer dans d'autres choses, ça c'est mes implications personnelles donc j'ai pas à en parler là, mais ça dépasse le cadre de la scène. Et en tout cas la scène est un espace sur lequel oui je peux prendre la parole et j'en profite et je trouve que on devrait absolument profiter de ça. Je ne suis pas le seul à le faire. Hein. Je peux penser à Henri Texier à l'époque, à certaines époques. Et puis, il y en a d'autres. Didier Levallet. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bassistes.
Hein.
Beaucoup de bassistes. C'est peut-être parce que dans un orchestre, un bassiste, c'est souvent un rassembleur. Alors, il y a un rapport au collectif qui touche peut-être plus quelqu'un qui joue de cet instrument qu'un autre. Mais surtout aujourd'hui, avec la situation actuelle politique qu'on connaît, qui est pour moi bien plus effrayante que la situation économique. Et il y a quelque chose à dire, absolument. Quand les gens viennent nous retrouver sur un concert, c'est qu'ils ont envie de, ils ont envie de partager un moment d'imaginaire, ils ont envie de laisser passer leur quotidien pour s'évader. Ben, juste avant que... J'espère que ça se passe. C'est pas mal peut-être aussi voilà, d'avoir une parole parce que si on perd notre imaginaire à tous, on perdra notre solidarité et on perdra tout.
C'est sur cette envolée lyrique et collective du Loussadzak dans sa version de 2006 que se referme ce portrait du contrebassiste, improvisateur et compositeur Claude Chamichian. Un portrait au fil de la parole, émaillé par la musique de quelques fidèles compagnons de route en terre improvisée, Régis Subi, Eric Watson, Élise Caron, Guillaume Roy, Vincent Courtois, Gagik Mouradian, Denis Clasereau, Raymond Bonny, Joe McPhee, Rémi Charmasson, Stéphane Oliva et des rencontres plus récentes avec Yari Hangisto et Géraldine Keller. Claude Chamichian a fondé il y a 20 ans avec Françoise Bastianelli un label basé à Marseille, le label Émouvance, grâce auquel ses compagnonnages ont pu être pérennisés. Le label Émouvance a aussi maintenant son festival, Les Émouvantes. Alors rendez-vous pour la troisième édition des Émouvantes à l'automne 2014. C'est Françoise Cordet et Olivier Dupré qui ont réalisé ce portrait à l'improviste. Un grand merci aussi pour leur collaboration à Michel Mestre et Soisic Noël. Une heure sur France Musique, alors avez-vous déjà porté votre oreille tout près de la caisse de résonance d'une contrebasse ou d'un clavecin? Le son dure très longtemps, comme la musique sur France Musique, la nuit. Les nuits de France Musique ne font donc que commencer.